Père, que ton esprit de lumière, de vérité éclaire pour nous la parole que nous allons écouter, qui nous conduise dans toute la vérité. Que ton esprit de sainteté nous rende obéissants à ta volonté et nous donne la victoire dans nos combats. Que ton esprit d'amour, de joie, de paix brille en nous pour éclairer ceux qui marchent dans l'obscurité. Amen. Nous écoutons maintenant trois lectures successivement. Elles sont assez courtes, mais elles ont un lien vraiment entre elles. Il y a Genèse 9. Ensuite, il y aura 1 Pierre 3 et ensuite Marc 1.
Genèse 9, versets 8 à 15. Dieu dit à Noé et à ses fils : Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous. Les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Dieu dit encore, voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous et tous les êtres vivants. Les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair.
Première lettre de Pierre, chapitre 3, les versets 18 à 22. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est en lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci jadis avaient refusé d'obéir au temps où se prolongeait la patience de Dieu. Quand Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées par l'eau. C'était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas des souillures extérieures, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite, et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ, lui qui est à la droite de Dieu, après s'en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les souverainetés et les puissances.
Les versets 12 à 15 dans le premier chapitre de Marc. Les versets que nous lirons suivent immédiatement et sans transition le récit du baptême de Jésus. Et aussitôt, l'Esprit l'expulse vers le désert. Et dans le désert, il était 40 jours tenté par le Satan. Et il était parmi les bêtes sauvages et les anges le servait. Et lorsque Jean eut été livré, Jésus vint vers la Galilée proclamant l'évangile de Dieu et disant « Le temps est accompli, le règne de Dieu s'est approché, convertissez-vous et croyez à l'évangile. »
Voilà, j'ai dit, ces trois textes ont vraiment un lien entre eux. C'est Pierre qui fait le lien entre le baptême et le déluge. Après le déluge, donc vous connaissez tous l'histoire, c'est une des histoires les plus connues de la Bible, le plus souvent illustré aussi, après la crèche de Noël, c'est souvent l'arche de Noé qui est dans les livres d'images. Et les artistes en donnent à cœur joie, ils ont bien raison. Donc après le déluge, qui n'était pas une chose joyeuse, puisque toute l'humanité et même les animaux ont péri, sauf ceux qui étaient dans l'arche. Donc 8 personnes et puis les animaux que Noé avait fait monter dans l'arche. Après ce déluge, Dieu dit qu'il ne fera plus ça. Alors il faudra réfléchir à ça, pourquoi Dieu décide de changer de méthode. Est-ce que lui, serait un peu versatile, Dieu, il change d'idée comme ça. On verra qu'il y a une unité dans tout cela. Dans toute la Bible, il y a une unité entre les textes. Même si la Bible ose nous dire que Dieu change d'avis, il ne fera plus de déluge, et il donne un signe de cet engagement qu'il prend unilatéralement, car dans le texte que Catherine nous a lu dans Genèse 9, les versets précédents, Dieu dit qu'il voit bien que le cœur de l'homme est mauvais. Donc il prend de façon unilatérale un engagement de ne plus utiliser la force, sa propre force, pour faire arrêter le péché, faire cesser la violence entre les êtres humains. Car la différence entre le récit de la Bible et les autres récits de déluge, que les Juifs connaissaient parce qu'à Babylone on racontait aussi l'histoire du déluge, c'est que dans les histoires des autres religions, le déluge est raconté comme un caprice des dieux. Les dieux ne pouvaient pas faire leur sieste comme ils voulaient parce que les humains faisaient trop de tapage et de bruit sur terre. Alors ils ont décidé de les exterminer. C'est comme moi, quand j'entends 36 fois une mobylette pétaradante passer devant ma maison et derrière ma maison, j'ai envie de prendre un gros marteau et de taper sur cette mobylette. Eh bien, les dieux, d'après les religions autour d'Israël, par caprice, comme ça, ils ont décidé d'exterminer l'humanité. Que dit la Bible? C'est là que nous voyons la différence entre le Dieu de la Bible et le Dieu des religions. Le Dieu de la Bible, il a été pris de pitié pour les êtres humains qui étaient victimes de la violence, les uns entre les autres. Il a voulu faire cesser cette violence qui n'en finit jamais et qui n'a aucune limite. Et c'est pour ça qu'il a fait le déluge, non pas pour se préserver lui de son repos et faire la sieste là-haut, non, parce qu'il aime l'homme. Mais après le déluge, il dit « Je n'emploierai plus cette méthode, parce que ça ne change rien dans le cœur des hommes que j'utilise ma force, que j'utilise les forces de la nature pour faire cesser le péché, la violence entre les êtres humains. » Donc Dieu s'engage unilatéralement à rester miséricordieux et patient. Maintenant, nous n'aurons plus jamais de problème avec la force de Dieu, avec sa puissance. Nous aurons des problèmes avec sa miséricorde. Et Jésus a beaucoup à enseigner combien la miséricorde de Dieu est choquante. Dans les paraboles, il y en a beaucoup qui parlent de ce problème que nous avons, nous, avec la miséricorde de Dieu. Elle est choquante. C'est choquant de voir que la violence continue et que Dieu ne fait rien. Oui, c'est choquant. Mais nous avons déjà la réponse dans la Bible. Dieu ne veut plus utiliser, lui, la violence. Donc il s'engage à ne plus l'utiliser, mais est-ce qu'il reste sans rien faire? Non. Déjà, ce texte de Noé, de l'époque de Noé, nous oblige à regarder un endroit que nous avons toujours là devant nos yeux, où Dieu n'utilise pas la violence, mais où change quelque chose. De fond en comble, d'ailleurs. Qui change les choses plus qu'un déluge. C'est le baptême de Jésus. Et sa mort sur la croix, Jésus l'a comparé lui-même à un baptême. Mais là, dans Marc, et dans tous les évangiles, nous voyons que tout commence par le baptême de Jésus, par Jean-Baptiste. La bonne nouvelle, l'évangile, commence par le baptême de Jésus. Et ça, ça change. Mais pas par la violence. Parce que Dieu souffre. En s'engageant à ne pas utiliser lui-même sa force pour faire cesser la violence et le péché entre les humains, s'est engagé à souffrir. Ça aussi, c'est une grande différence. Je ne sais pas si j'ai raison, c'est la principale différence entre le Dieu qui se révèle dans la Bible et le Dieu que nous fabriquons dans notre tête, le Dieu des religions, des idoles. Elle ne souffre pas. Le Dieu tout-puissant des philosophes, il ne souffre pas. Il est impassible. Or, la Bible dit que Dieu souffre. Ça rentrera jamais dans notre tête, ça. Parce que notre intelligence ne pense pas à un Dieu qui souffre. Mais c'est la Bible qui le dit. C'est lui-même qui nous le dit. Nous lisons cela dans la Bible. Et nous sommes étonnés. Mais il ne faut que nos yeux s'ouvrent sur ce Dieu qui s'est engagé de ne plus faire de déluge, mais qui a pris lui-même sur lui toute la violence des hommes. Car Jésus, lui-même, va suivre l'alliance que Dieu a faite en Noé. Il va l'accomplir. Il va la montrer tout ce qu'il y a dans l'alliance de Noé, d'Abraham, de David, tout ce qu'il y a dans l'alliance, dans les alliances que Dieu fait, de façon toujours unilatérale, car le cœur de l'homme ne change pas. Alors il va subir ce que lui feront subir les cœurs des hommes, la trahison, le mépris, la moquerie, la torture psychologique, la torture physique. Il aura tout subi, Jésus. Et il n'est pas moins vulnérable que nous. Au baptême, que s'est-il passé? Jésus a pris le baptême, il n'était pas obligé, parce qu'il était fils de Dieu. Le baptême, c'est pour des gens qui confessent des péchés et qui demandent ainsi le pardon à Dieu en confessant à Jean-Baptiste. Eh bien, Jésus a demandé le baptême, ça veut dire qu'il accepte d'entrer dans notre condition humaine et de prendre sur lui les péchés. Dans le texte que Anne nous a lu, dans 1 Pierre, il nous est bien dit, lui a souffert pour les péchés, lui juste pour les injustes. L'apôtre Pierre cite ici Ésaïe 53, juste, Jésus est juste. Mais c'est un juste qui justifie des injustes. Jésus est un juste qui justifie des injustes. Comment c'est possible si ce n'est qu'il a souffert pour les péchés? Lui a souffert pour les péchés, juste pour des injustes, pour nous introduire en présence de Dieu. Est-ce que nous savons que nous sommes introduits en présence de Dieu à chaque instant? Nous n'avons peut-être pas conscience de cela, ou nous ne sentons rien de tout cela, mais Jésus nous introduit dans la présence de Dieu. Est-ce que vous vous rappelez ce que je vous ai, je crois, déjà prêché deux fois? Comment peut-on être sûr d'avoir le Saint-Esprit? Je vous l'ai déjà dit deux fois. Et je sais que je dois vous l'enseigner parce que c'est quelque chose que je n'ai pas lu dans un livre, c'est quelque chose que j'ai reçu du Seigneur. Je dois vous enseigner comme ça, et surtout l'Assemblée de Thiers. Comment pouvez-vous être sûr d'avoir reçu le Saint-Esprit? Il y a une seule façon, ce que je dois vous enseigner, mais je ne sais pas si quelqu'un l'a retenu. Alors je le répète, en regardant Jésus au baptême. Je vous garantis, c'est ça qu'il faut retenir. Pour être sûr d'avoir reçu le Saint-Esprit, vous n'avez pas d'autre solution que de regarder à Jésus dans son baptême. Parce que là, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Parce que si vous choisissez une autre façon d'être sûr, ça ne marchera jamais. Il y aura toujours un doute. Mais si vous regardez à Jésus, dans son baptême, Jésus baptisé reçoit le Saint-Esprit, alors vous aurez la certitude que le Saint-Esprit vous est toujours donné. Il y a deux choses qui se sont passées au baptême de Jésus. Le Saint-Esprit descendant visuellement sous forme de colombe, et puis une voix, donc le Père aussi. Donc il y a eu la Trinité qui était vraiment visible, rendue visible, plutôt visible, audible. Quoi, parce que la voix du Père, le Père on ne la voit jamais, le Père on ne le voit pas, mais on a entendu sa voix venant du ciel, et ce Père a dit à Jésus, au moment où il reçoit le Saint-Esprit, il dit, tu es mon Fils, en qui vraiment je prends plaisir. On pourrait penser qu'après une telle expérience que tout le monde aimerait faire, ben vous pouvez la faire, et vous pouvez la faire juste en regardant Jésus dans son baptême, que Jésus était devenu invulnérable, puisqu'il était rempli d'une telle force, la Trinité s'est manifestée à son baptême. Mais que dit le texte? Et c'est ça que Claude nous a lu dans Marc. À peine il a reçu ça comme révélation, le Saint-Esprit l'expulse au désert pour être tenté 40 jours. Être tenté, ça veut dire être devant un choix, oui ou non. C'est ça, être tenté. Je choisis ça ou je choisis ça. Jésus était vraiment homme, car tout le temps, il devait choisir. Et il a choisi toujours de suivre la volonté de son Père. Mais il était toujours devant un choix. Il était sans péché, mais il n'était pas sans le libre choix que nous avons aussi. Maintenant que nous sommes dans la grâce de Dieu, nous avons toujours la grâce de Dieu ne nous rend pas invulnérables, elle nous rend vulnérables. Jésus est devenu encore plus vulnérable après le baptême du Saint-Esprit. 40 jours de tentation. 40 jours. Au milieu des bêtes sauvages. C'est pas rassurant, les bêtes sauvages. Mais c'est important, là, dans le texte. Parce que les bêtes sauvages, Dieu a fait alliance avec elles aussi. Après le déluge, vous verrez, dans le texte que Catherine nous a lu, si vous avez bien écouté, peut-être que ce n'était pas marqué bête sauvage, mais en hébreu, c'est marqué bête sauvage. Dieu fait une alliance après, avec l'arc-en-ciel, est un signe d'alliance, pas seulement avec l'humanité, avec la nature, avec les bêtes sauvages, avec la création elle-même. La pérennité de la création, le fait que les lois qui font qu'il existe une nature, qu'il existe une création, ça vient d'une alliance.
Les scientifiques étudient ces constantes de la physique, de l'astrophysique, qui fait que nous, que la vie existe existe sur Terre. Mais il faut plein de conditions qui ne bougent pas. Ça bougerait d'un tout petit iota, la nature s'effondrerait sur elle-même. Mais Dieu a fait une alliance avec la nature et avec l'humanité depuis Noé, et le signe, c'est l'arc-en-ciel. Donc Jésus était avec les bêtes sauvages, il accomplit l'alliance avec Noé. Les bêtes sauvages ne l'ont pas touché. Et nous devons vivre aussi avec des bêtes sauvages. Nous vivons dans un monde avec des bêtes sauvages autour de nous. Le Satan, dont il est question ici. À la fin de l'épître de Pierre, vous verrez, il est comparé à un lion rugissant. Diable rôde autour de vous comme un lion rugissant. Alors si vous le... Heureusement, on ne l'entend pas. C'est une réalité invisible. Si nous sommes sensibles à la réalité invisible, ça nous effraierait tellement. Mais il y a le sang de Jésus sur nous. Et l'apôtre Pierre dit, résistez-lui. Résistez-lui avec une foi ferme. Jésus, ayant été vivifié par l'Esprit, après sa mort sur la croix, il a été vivifié par l'Esprit, il est allé prêcher l'Évangile à tous ceux qui avaient été exterminés à l'époque du déluge. C'est ce que dit l'apôtre Pierre ici. Toute l'humanité qui a été exterminée à l'époque du déluge parce qu'ils avaient refusé d'écouter Noé qui leur parlait de Dieu, eh bien ils ont reçu encore une chance là. Jésus, par l'Esprit, est allé leur annoncer l'Évangile. L'Évangile a été annoncé au séjour des morts quand Jésus a été ressuscité par l'Esprit Saint, quand son corps a été ressuscité. C'est avec son corps qu'il a pris toutes les souffrances, qu'il a pris sur lui aussi toute la violence de l'humanité. Et c'est ce corps-là qui a tout subi, qui a tout pris sur lui. C'est ce corps-là qui est ressuscité par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre, dans son épître, n'arrête pas de nous mettre devant des paradoxes. Il dit, dans le premier chapitre, je l'ai lu tout à l'heure, vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse, tout en étant attristé par toutes sortes d'épreuves. Il combine dans le même verset la joie et la tristesse, la joie et la tristesse. Qui peut écrire une chose pareille? Ben, un apôtre comme Pierre, oui, peut l'écrire. Car lui, quand il parle de la souffrance, il sait ce que c'est. Il sait ce que c'est parce qu'il la fuit. Il voulait suivre Jésus jusqu'à la mort. Mais quand ça a été le moment, il a vu que c'était trop d'humiliation, trop de souffrance. Il a renié Jésus 3 fois. Donc il sait bien que c'est pas des mots en l'air quand il parle de la souffrance de Jésus. Et que l'être humain n'est pas capable. Mais l'Esprit Saint étant donné, on reçoit la force. Une force qu'on ne connaît pas avant, mais qui se manifeste dans la souffrance. L'apôtre Pierre a une autre expression paradoxale. Il dit, dans le 2e chapitre, « Par tes meurtrissures à Jésus, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. » Quel paradoxe! Les meurtrissures de Jésus nous guérissent. Ça, c'est marqué. C'était déjà annoncé par le prophète Ésaïe, mais Pierre approfondit encore ce paradoxe. Il dit, par ces meurtrissures, vous êtes guéris. Et il dit, le secret de tout cela, c'est que l'Esprit de gloire repose sur vous quand vous êtes tués, méprisés, quand vous êtes persécutés pour le nom de Jésus. Réjouissez-vous, dit-il. Réjouissez-vous, l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous, comme il était sur Jésus. C'est pour cela que Jésus est à la droite du Père, pour que nous ayons la souveraineté avec lui sur toutes ces puissances, ces bêtes sauvages, qui sont le Satan et sous ses démons. L'Apocalypse parle aussi de bêtes qui montent de la terre, qui tuent les humains, de forces effroyables. Peut-être nous y sommes. Ça a toujours été d'ailleurs. Mais aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes dans ce temps où nous devons apprendre à suivre Jésus, à regarder à Jésus dans son baptême, qui ne l'a pas rendu plus inhumain, mais au contraire plus humain encore, et plus vulnérable encore, parce qu'il a été tenté 40 jours. Et après ces 40 jours, je pense que ces 40 jours ont été décisifs, parce qu'il n'arrête plus après. Il va pendant 2 ans et demi, 3 ans, il va dans beaucoup de lieux et toujours des choses se passent, des malades sont guéris, des démons sont chassés. Il bouge beaucoup. Quelqu'un m'a dit la semaine dernière, leur fils a récité l'évangile de Marc avec d'autres étudiants, et quand ils ont entendu l'évangile de Marc lu d'une traite, ils se sont rendus compte que Jésus est toujours en train de bouger. Il va là, il va là, il va là. Et partout, il y a des démons qui sont chassés, des malades qui sont guéris. Et puis beaucoup, beaucoup enseignements du royaume de Dieu. Mais une parole qui a une puissance, qui étonne les gens. Parce que Jésus prend sur lui la souffrance, prend sur lui les péchés des hommes. Alors il leur annonce la joie, le pardon de Dieu, la guérison de Dieu dans leur vie. Mais tout cela a été possible parce que 40 jours il a été tenté, 40 jours avec les bêtes sauvages et les gens et les anges qui le servaient, parce que les anges aussi sont là. 40 jours où, comme il le dit dans Marc au chapitre 7, il a lié l'homme fort. L'homme fort, c'est le Satan. L'homme fort de ce monde, c'est Satan. Il faut d'abord lier le chef, après tu peux chasser les sous-chefs comme tu veux. Et bien, c'est ce que Jésus a fait. Il a d'abord lié le Satan, le chef de tous les démons, de toutes les puissances mauvaises de ce monde. Il l'a lié, il l'a jeté dehors. Sur la croix, il dit dans Jean, « Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Et juste avant, il dit, « Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. » C'est au moment où il est troublé dans son âme, mais il a la parole de Dieu pour nous dire, « Voilà, j'accepte la souffrance. » Dieu n'emploiera plus la force, il ne changera plus les cœurs par la force, il les changera par son amour. C'est cet amour que je veux vous enseigner, que je veux vous montrer, vous manifester, pour que vous puissiez vous aussi le manifester. Et le manifester, ça veut dire accepter. Accepter la souffrance. Accepter d'avance ce par quoi le Seigneur va nous faire passer, que nous aurons d'avance aussi la joie du Saint-Esprit, même dans la souffrance. Amen.